Ils réussissent à trouver une solution pour régler le problème, et c'est ça qui est important. Salutations à ceux qui sont sur la toile. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en salle ici. Aujourd'hui, on va voir quelque chose d'important, comme quoi il est capital de s'inspirer des véritables sources divines. Parce que c'est pas tout ce qu'on entend, c'est pas tout ce qu'on pense, c'est pas toute inspiration qui nous vient à l'esprit, qui est d'origine divine, ou qui vient de Dieu, ou qui est approuvée de Dieu. Vous savez, les Québécois et même les gens de l'Ontario ont des multitudes de sources sur lesquelles s'appuyer pour donner un sens ultime à leur vie. Quand on écoute parler des gens de notre entourage, si on les connaît suffisamment ou si on prend le temps de les écouter, on peut voir qu'ils sont inspirés, par exemple, par le bouddhisme, par le nouvel âge, par la psychologie, par la pop psychologie, parce qu'on voit de plus en plus de sites sur la toile qui amènent une psychologie vulgarisée, adaptée, par différentes philosophies, par la pseudo-science. Mais beaucoup de ces repères vont égarer au bout de la ligne. Mais savez-vous, c'est pas ce qu'il y a de plus inquiétant pour moi. Parce qu'on va voir une vidéo dans quelques instants qui dure 3 minutes environ, qui a été diffusée sur le réseau TVA et qui nous parle de la situation spirituelle ou religieuse des Québécois. Savez-vous ce qui me trouble? C'est que quelques années auparavant, parce que cette vidéo-là a été diffusée en 2015, en 2011, l'Institut de la statistique du Québec nous rapportait que la population du Québec était estimée à 7,940,200 habitants. Et, selon le Centre de ressources d'observation de l'innovation religieuse de l'Université Laval, au Québec, en 2011, on disait que 6,356,880 Québécois se disaient chrétiens. Ça veut dire que 80% de la population du Québec se disait chrétienne en 2011. Ce qui est troublant, puis c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est que 4 ans plus tard, on apprend que le Québec figure parmi les endroits les moins religieux du monde. Et je vous invite à écouter cette vidéo et à la regarder aussi.
Vous considérez comme une personne religieuse?
Oui. Pourquoi?
C'est plus spirituel, c'est plus personnel, je dirais.
Enfin, j'ai déjà été à l'église puis tout, là, mais j'y vais plus comment là.
Ouais, moi aussi, je suis plus athée. Là.
Parce que j'aime bien le lien avec la nature, Dieu et avec l'humanité.
Ça m'a jamais vraiment intéressée, puis ça fait pas partie de ma vie présentement. Là.
Avec nous, pour en parler, Christian Bourque, vice-président chez Léger. La question de la semaine, la vraie question, Christian, est-ce que les gens se considèrent comme des personnes religieuses? Sondage ici, mais partout sur la planète.
De toute façon, question tellement importante qu'on l'a posée à 63 000 personnes dans plus de 65 pays. Et ce qu'on voulait voir, effectivement, c'est quelles sont les différences régionales à travers le monde au niveau de cette question-là, si on se considère religieux ou non. Et quand on regarde la tendance mondiale, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des variations énormes dans les différentes régions du monde, entre la Chine, le pays le moins religieux, à 7 % jusqu'à 94 au Maroc, par exemple. Mais les zones les plus religieuses, en moyenne, sont donc l'Afrique, le Moyen-Orient et des portions de l'Asie en tant que telles. Au Canada, 40 % se considèrent religieux. C'est un des pays les moins religieux au monde, le Canada. Et encore à l'intérieur du Canada, le Québec avec la Colombie-Britannique, les deux provinces les moins religieuses. Et quand on regarde aux États-Unis, c'est 56 % on parle souvent de la religion aux États-Unis, mais c'est un phénomène, en fait, où il y a beaucoup de diversité dans ce pays-là sur cette question-là.
Autre constat aussi, un corollaire là, entre la religion et le niveau de revenu sur la planète.
Oui, et ça, on l'a observé dans plusieurs sondages à travers le temps, dans plusieurs études sociologiques. Plus un pays est pauvre, plus il a tendance à être religieux. Ce phénomène-là a longtemps été observé et l'est encore aujourd'hui. Et on le voit, les différences sont importantes selon le degré de revenu. Par la suite, on a posé la même question sur la scolarité, et là, le lien est moins évident. C'est-à-dire, oui, les régions les moins scolarisées, qui sont souvent aussi les moins fortunées, ont tendance à être plus religieux, mais dans toutes les strates de la population, selon le niveau de scolarité, il y a toujours une majorité de gens qui se considèrent religieux. Phénomène important qui a été observé aussi par ailleurs, plus les femmes sont éduquées, plus le pays est riche, et moins le pays est religieux, donc ça a plutôt lien à l'éducation des femmes que des hommes. Ce qui est intéressant quand on regarde en termes de ferveur religieuse, à travers le monde, 78% des catholiques se considèrent religieux. Seulement 33% des juifs se considèrent religieux.
Beaucoup.
Et 90% des musulmans, eux, se disent religieux. Si on le compare au Québec et au Canada, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'il y a des divergences importantes. Un phénomène important, cependant, c'est que si on regarde qui sont les plus religieux à travers le monde, ce sont plutôt les jeunes. Malraux avait dit à un certain moment donné, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Eh bien, la réponse est là, le 21e siècle sera religieux.
Ça, c'est sur l'ensemble de la planète?
Tout à fait.
Au Québec, comment ça se fait?
Au Québec, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on voit la courbe essentiellement, nos jeunes, nos plus jeunes, sont très peu religieux, à 24-21%. Et même chez nos 55 ans et plus, même si on monte à 48%, il y a tout de même plus de la moitié de nos Québécois un peu moins jeunes qui ne se considèrent pas religieux.
C'est pas beaucoup, hein?
Ouais, c'est pas beaucoup. Mais c'est incroyable le contraste. 80% se disent chrétiens, mais 34% se disent religieux. C'est contradictoire. Et ça nous montre que on peut pas se fier sur n'importe quelle source. Puisque plusieurs ont comme une double identité. Vous savez, il y en a qui ont une double citoyenneté, mais sur le plan religieux et spirituel, il y a beaucoup de Québécois qui ont une double identité. Et donc, ça nous prouve qu'on ne peut pas se fier à n'importe qui et à n'importe quel concept. Et ça peut nous rendre confus. Mais ce qui est le plus troublant pour moi, c'est quand cette confusion rentre dans nos églises. Lorsque des gens acceptent n'importe quoi, n'importe quelle source d'instruction spirituelle, même il y a des gens, par exemple, qui vont prendre une des décisions les plus importantes de leur vie, s'unir à quelqu'un, et pensant, par exemple, que, j'en ai entendu tellement de femmes, par exemple, me dire, quelques hommes, mais majoritairement des femmes, disent « Mais quand je l'ai marié, il me dit qu'il avait accepté Jésus, puis aujourd'hui, il vit, puis il se comporte comme un athée. » Quelle source, cette personne-là, de quelle source elle se nourrissait à ce moment-là? Et ce qui est bouleversant, c'est qu'il y a certaines sources d'influence, courants de pensée, qui sont séduisants, mais qui sont trompeurs. Avez-vous déjà acheté, par exemple, un morceau de vêtement qui avait de l'air beau, qui avait de l'air de qualité, puis une fois que vous l'avez lavé, eh bien, vous êtes rendu compte qu'il n'est pas aussi beau, il ne se porte pas aussi bien. Et ça, c'est trompeur. Il est beau sur le support, il est beau devant le miroir. Mais une fois qu'il a été lavé, là, on voit la vraie qualité, la vraie teneur de ce vêtement-là. Mais imaginez que vous avez acheté cette robe-là, soit pour vous, si vous êtes une femme, ou pour votre femme, si vous êtes un homme, puis vous vous rendez compte que c'est pas la qualité que vous souhaitiez avoir. Et là, vous l'avez acheté sur Internet, puis vous allez le retourner en personne au magasin. Et c'est là que ça provient. Genuine Fake Factory, hein, en voulant dire, c'est une authentique similitude. Tu sais, c'est du véritablement faux. Mais malheureusement, spirituellement, trop de gens se nourrissent du véritablement faux. Avez-vous déjà mangé, mesdames et messieurs, moi j'en ai mangé quand j'étais jeune, du simili-poulet. Non, mais moi je trouvais ça bon quand j'étais jeune. Ma mère me faisait des sandwichs au simili-poulet. Mais à l'âge que j'ai aujourd'hui, je repense à ça, du simili-poulet, c'est quoi je mangeais? C'est pas du poulet. Ça a de l'air du poulet. Ça goûte pas tout à fait comme du poulet. Mais c'est du simili-poulet. C'est incroyable. Mais spirituellement, est-ce qu'on se nourrit de sources simili-divines? Vous savez que une mauvaise source d'inspiration divine peut nous faire du tort, peut faire du tort à notre âme, peut nous apporter énormément de déceptions, peut nous égarer. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup de nos tracas, de nos soucis, proviennent de ce qu'on a cru des mensonges. Par exemple, si c'est faux que ton père a aimé plus ta sœur que toi, mais que tu as cru ça, ça peut t'amener à avoir un bizarre de comportement dans tes relations. Par exemple, tu peux croire que tu vas être heureux quand tu vas être en couple, ou quand tu vas être marié, ou quand tu vas devenir célibataire. Ah là, je vais être heureux quand je vais être célibataire. Ou quand je vais avoir ma maison, ou quand je vais avoir une voiture neuve, une BMW. J'en ai essayé une la semaine passée en passant. Ça m'a pas impressionné. Mais une chose est sûre, c'est bien mieux qu'une Audi. Ça, c'est clair, ça. Je voulais en lancer une petite à Mathieu Farley, c'est pour ça. Mais, un autre mensonge. Excuse Mathieu, excuse-moi. Mais un autre mensonge. Je vais être heureux quand je vais avoir un chalet ou quand je vais avoir une aventure extra-conjugale. Quand je vais faire plus d'argent, quand je vais faire tel métier, quand je vais réaliser tel projet, tel voyage. Oui, ces choses-là peuvent amener de l'agrément, du bonheur, du plaisir. Mais si on met notre espoir là-dessus, si on capitalise là-dessus, c'est sûr qu'on peut être déçu à un moment donné. D'autres vont réaliser qu'ils ont le mal de l'âme parce qu'ils ont fait confiance à des gens qui les ont trahis, trompés, rejetés, abandonnés, humiliés ou qui ont été injustes envers eux. Ils ont fait confiance à ces gens-là. C'était pas une source fiable, ils s'en sont rendus compte plus tard et ça leur a fait mal. Et ce qu'on va voir dans le texte, c'est qu'on va voir que l'apôtre Jean veut exclure la naïveté comme étant une vertu. La naïveté n'est pas une vertu. Il va nous amener à comprendre qu'on doit désapprouver les mauvaises sources puis s'assurer que les disciples soient branchés sur la bonne source. Parce qu'oubliez pas, la première lettre de Jean commence au début et Jean met la table en nous disant ce qui veut nous amener, c'est être en communion avec Dieu, être syntonisé avec Dieu, être en lien avec Dieu, être en contact avec Dieu pour marcher dans ses voies, pour le suivre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean, lui, tout au long de sa lettre, va mettre en contraste deux thèmes. C'était une coutume à l'époque chez les Juifs. Vous savez, dans la littérature française, on aime beaucoup la sonorité des mots. Et on le voit dans la poésie, on aime les rimes. Mais chez les Juifs, ce qu'on aimait, ce qu'on faisait, lorsqu'on écrivait un texte, lorsqu'on partageait des idées, c'est de mettre deux concepts en contraste. Et on a vu dans le message « Se distinguer pour inspirer » il n'y a pas si longtemps, au chapitre 3, il mettait en contraste les péchés, les fautes et l'obéissance. La semaine dernière, dans « S'aimer les uns les autres », on a vu qu'il mettait en contraste l'amour et la haine. Dans ce passage-ci, ce qu'on va voir, le contraste, c'est entre l'erreur et la vérité. Et ce que Jean nous enseigne, c'est que il veut qu'un disciple avisé apprenne à éprouver les sources d'inspiration. Il veut que on emporte la victoire contre les faux jetons, les faux prophètes, et il veut qu'on s'attache aux bonnes sources. Et avant d'entrer dans le texte, eh bien, on va se remettre devant Dieu pour qui puisse disposer notre cœur à écouter puis à recevoir sa parole. Prions. Père, merci de garder nos cœurs à l'écoute. Dispose notre cœur à être concentré sur ce que tu veux nous dire, sur ce que tu veux nous parler, sur ce que tu veux qu'on puisse méditer cette semaine. Parce que lorsque tu nous instruis par ta parole, on sait que c'est une source fiable. Ta parole est la vérité. Et on ne sera jamais déçu lorsque tu parles à nos cœurs au travers de ta parole. Parce que tu nous aimes, tu veux notre bien. Merci de nous instruire aujourd'hui, de nous fortifier et de faire de nous des disciples encore plus solides pour affronter cette génération qui, malheureusement, à bien des égards, amène des courants de pensée qui veulent nous tromper. Mais on est tous convaincus d'une chose, c'est que toi, tu ne veux pas nous tromper parce que tu es la vérité, Seigneur. On te remercie dans le nom de Jésus de nous instruire, de nous parler, de nous fortifier. Amen. 1 Jean 4, verset 1. « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. » Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Et donc, à quoi ressemble un disciple avisé? Il va éprouver les sources d'inspiration, les courants de pensée. Il va mettre à l'épreuve ce qu'on dit des choses. Jean avait mentionné préalablement au chapitre 3 que l'Esprit de Dieu a fait sa demeure dans le disciple, dans celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et par ce passage qu'on vient de lire, il va écorcher les Cérinthiens, pas les Corinthiens, les Cérinthiens. Les Cérinthiens, ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de sérinter, c'était des gens qui véhiculaient un faux concept. Pour eux autres, Jésus-Christ avait reçu l'Esprit de Dieu au baptême et juste avant la crucifixion, l'Esprit de Dieu est disparu. Ils séparaient Jésus du Christ. Et Jean, lui, le dernier disciple qui avait suivi Jésus vivant, eh bien, veut clarifier les choses parce qu'il y a toutes sortes de courants de pensée qui viennent s'introduire et qui viennent amener de la confusion. N'oubliez pas, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de poste comme on l'a aujourd'hui avec des camions, des voitures. Je veux dire, s'il y avait une lettre qui s'envoyait, c'était en bateau ou à cheval ou à pied. La communication n'était pas comme aujourd'hui. Et là, il fallait que, en tant qu'apôtre, en tant que témoin de Jésus-Christ, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, il puisse amener une clarification. Et Jean, lui, avait cette autorité-là parce que il avait vécu avec Jésus, il l'avait vu, il l'avait entendu, il l'avait touché. C'est ce qu'il écrit au début de sa lettre. Mais, à cette époque-là, on remettait en question que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu, parce qu'on était très influencé par Platon, et ce que ça faisait au bout de la ligne, c'est que oui, la spiritualité, c'est extrêmement important, la philosophie, la réflexion, nourrir l'âme, c'est capital. Mais puisque le corps n'a pas de valeur, on ne doit pas condamner l'immortalité, puisque le corps va mourir. Et donc, ça troublait certaines personnes dans l'Église. Et ces faux docteurs-là commençaient à enseigner les chrétiens en disant « Quittez les cercles qui sont enseignés par les apôtres ou qui se revendiquent de l'enseignement des apôtres. » Parce qu'il ne vous enseigne pas de bonnes choses. Et Jean, qui est un apôtre, va commencer à leur dire ceci, verset 1. Il est en train de leur dire, vous qui êtes l'objet de l'amour de Dieu, arrêtez de croire toute inspiration, toute communication divine, en d'autres mots, qui est actionnée dans un individu qui prétend détenir la vérité, mais mettez plutôt les esprits à l'épreuve, pas seulement dans le but de les condamner, mais dans le but aussi d'approuver ceux qui sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus et continuent d'exercer leur influence dans la société. En d'autres mots, apprenez à discerner si une communication divine est inspirée du Seigneur ou non. Qu'on la reçoive par quelqu'un qui nous la communique ou qu'on la reçoive dans notre cœur, dans notre esprit, c'est pas parce qu'il y a une pensée qui nous vient à l'esprit, puis qu'on est né de nouveau, qu'elle vient nécessairement de Dieu. Elle doit être éprouvée, elle doit être mise à l'épreuve. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la Bible, sa parole, pour nous montrer si, justement, c'est conforme à la pensée, à la volonté de Dieu. Paul va mentionner quelque chose qui va dans le même sens, dans 1 Timothée 4, il dit, « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines ou des enseignements de démons. » Il va y avoir à la fin des temps des gens qui vont communiquer toutes sortes de pensées trompeuses. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le tableau, dans la vidéo qu'on a vu tout à l'heure, c'était écrit en tout petit en bas. 63% des Québécois protestants se disent religieux. C'est même pas 2/3. Et donc, et spécialement avec Internet aujourd'hui, avec YouTube, on entend puis on voit toutes sortes de courants de pensée, d'idéologie, même chez ceux qui se disent chrétiens. Il faut vraiment faire attention de ce qu'on reçoit, parce que ça peut, je ne dis pas ça va, mais ça peut nous égarer. C'est important d'être enraciné dans notre génération, dans les Écritures. Parce que quand on va arriver devant Dieu, il n'y aura plus de tromperie. On va être dans la vérité pure et totale. Et ça va arriver bientôt pour chacun de nous. Et au verset 2, il dit, « Voici comment vous allez expérimenter que l'esprit en question est de Dieu. Tout esprit qui reconnaît, qui confesse, qui certifie que Jésus, celui qui sauve, est le Messie, le Christ, le Oint, venu en homme et de Dieu. » En d'autres mots, un enseignant, un prédicateur, un prophète qui ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, Dieu fait homme, eh bien déjà le fondement n'a pas une origine divine, une origine qui vient de Dieu, du Dieu véritable. Jean clarifie les choses. Il veut que les choses soient limpides. La source d'inspiration doit mettre en valeur Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ, Dieu fait homme. Verset 3, « Si un esprit, une inspiration, une influence, un mouvement ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'adversaire du Christ ou de l'Antichrist. » Ici, il ne parle pas de l'Antéchrist, celui qui va venir avant le Christ lors de sa seconde venue, mais de l'Antichrist, l'adversaire du Christ. En d'autres mots, il dit, si tu crois que Jésus est un homme qui a été guidé par un esprit, du baptême jusqu'au chemin de croix, tu es enseigné par l'adversaire du Christ. Et il va dire, vous avez appris sa venue en parlant de l'Antichrist, et maintenant déjà il est dans le monde. Déjà il est en train d'opérer pour séduire, pour tromper des gens. Puis il y a peut-être quelqu'un ici qui nous écoute sur la toile, et peut-être toi, tu adhères à un autre système de pensée, une autre façon de voir les choses. Tu adhères à d'autres croyances. Tu reconnais peut-être que Jésus, c'est un philosophe ou un prophète. Et pour toi, c'est pas Dieu fait homme qui est mort pour tes fautes, mais sache une chose. C'est mieux de t'assurer que ce que tu crois est solide et vrai, parce que quand on va arriver devant Dieu, on pourra pas revenir après pour recommencer à zéro. C'est ici que ça se décide. Et ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. La source d'instruction spirituelle va nous amener, si elle vient de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, et s'il ne vient pas de Dieu, à nous égarer à quelque part, c'est sûr. Et Jean met les pendules à l'heure. Mais réalisez-vous ce qu'il est en train de dire? Que si ce n'est pas basé sur Jésus, si ça vient de l'adversaire, eh bien, à ce moment-là, tu es en train de te nourrir de 6000 poulets spirituels. Ce n'est pas du vrai, ce n'est pas de l'authentique. Ça nourrit peut-être, ça rejoint peut-être ton être, mais ça ne t'amènera pas la vie éternelle dans la présence de Dieu. Puis ça peut t'amener des surprises dans l'éternité. Il n'y a rien de plus sérieux que ça, de découvrir que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais l'ennemi, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est discréditer le message pour tromper, pour séduire, pour nourrir une rébellion contre Dieu. Parce que Satan, savez-vous quoi? Il veut démontrer à Dieu qu'il est capable de se créer un royaume puis faire une aussi bonne job que Dieu, à sa manière. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne qui va ressortir gagnant de sa manière. Peut-être toi, tu penses que Jésus, c'est une divinité, un prophète, un philosophe, un homme de bien, un ésotérique, un égal à Satan, un simple homme, un pécheur, un humain, aussi déchu que toi. Ou peut-être c'est un Justin Trudeau nouveau genre. Hein, parce que Justin Trudeau, je veux dire, il est partout, puis il est en train d'amener une nouvelle ère de politiciens, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Mais jamais de la vie, on pourra comparer Jésus-Christ à Justin Trudeau, parce que Jésus-Christ est Dieu. Et il fallait que Dieu se fasse homme pour mourir à notre place. Quel prophète a l'autorité de mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle? Il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'on lit dans les Actes qu'il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on peut être sauvé, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux, il y en a un. Un seul nom. Le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Puis c'est pour ça que le disciple avisé, eh bien, il va remporter la victoire contre les faux jetons. Il dit au verset 4, Jean, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez combattu et vous êtes sortis victorieux. Vous êtes reconnus vainqueurs sur ces prétendus prophètes. Vous êtes des conquérants parce que celui qui est en vous, en d'autres mots, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. L'adversaire du Christ qui veut séduire et tromper la société. » Tu sais, peut-être que tu es en train d'écouter ce qui se dit aujourd'hui, puis tu dis, « Ah, je le sais en moi-même que c'est vrai que Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, mais je n'ai pas le goût que ça soit vrai. » Écoute, si c'est ça qui se passe dans ton cœur, il est temps aujourd'hui que tu puisses capituler devant lui, puis dire, « Seigneur, je te demande pardon. Je t'ai résisté pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre qui est mort à notre place, qui nous a racheté nos fautes. » Au verset 5, « Ils ont eux-mêmes leur source, en parlant des faux prophètes, dans cette société inspirée par l'adversaire du Christ. Voilà pourquoi ils parlent à partir de cette source. » Et les membres de la société les écoutent. Et précision avant d'entrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle d'une communication qui est écoutée par les gens de notre société, ça ne veut pas dire qu'on doit adapter notre langage pour être approuvé par notre société. Si on adapte notre vocabulaire, c'est pour être clair, pour que le message soit mieux compris. Par exemple, Si tu parles à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, qui ne croit pas en Jésus-Christ comme son sauveur, puis tu lui dis, ton problème, c'est qu'il faut que tu te sanctifies. Il n'a peut-être jamais lu ça dans un livre, dans un journal, il n'a jamais entendu ça à la TV, il n'a jamais vu ça sur la toile, le mot sanctifier. Mais si tu lui dis, ce qui te fait peur, c'est de te consacrer à Dieu, te réserver pour Dieu, te mettre à part pour lui, là, peut-être ça va amener une discussion, puis ça va sonner une cloche. C'est pas qu'on doit changer le mot pour mieux paraître, pour être mieux compris. Par exemple, écoutez bien chaque syllabe. Je vous avertis d'avance. J'ai dit à un homme un jour, en pleine face, j'ai dit « Tu es un tabernacle ». J'ai dit « Tu es un tabernacle ». Ok, je vais pas utiliser la syllabe « bar »,« ber ». Si tu dis à quelqu'un « Va au ber à crème glacée », il ne te comprendra pas. Okay. J'ai dit « Tu es un tabernacle ». Mais lui, dans sa tête, parce que c'est un Québécois, il est venu rouge puis il était fâché. Là, j'ai dit, je vais t'expliquer ce que c'est un tabernacle. C'est une tente de peau qui a de l'air de rien. Puis ces peaux-là au soleil, ça devenait tout usé. Mais à l'intérieur, tout ce qui était fait était artistement taillé, c'était recouvert d'or, c'était précieux. C'était extraordinaire. Puis toi, je te vois comme un tabernacle. T'as de l'air de rien à l'extérieur. T'es un homme tout simple. Mais quand je parle avec toi, il y a tellement de belles richesses qui sortent de ton cœur. C'est extraordinaire. Là, il est reparti avec le sourire. Ouais, il me dit, je pensais que tu me traitais de bip, bip, bip. Puis je dis, non. T'es un tabernacle. Mais je vais vous donner un autre exemple de vocabulaire. La dignité humaine, on en a parlé beaucoup ces dernières années parce que le débat continue sur la question de l'euthanasie, la question d'enlever la vie des gens en fin de vie. Et des deux camps, la pensée de ce monde et la pensée de Dieu, on va utiliser l'expression « dignité humaine ». C'est le même mot, mais ça sonne pas pareil. Comme le gars tout à l'heure, quand je lui disais tabernacle, dans sa tête, c'était un autre mot, puis ça avait un autre sens. Dans ma bouche, ça avait un autre sens que ce qu'il y avait dans sa pensée. Il a fallu que je lui explique. La dignité humaine, c'est la même chose. Selon ce monde, c'est qu'on va enlever la vie aux souffrants parce qu'il éprouve plus de qualité de vie. Mais la dignité humaine, selon Dieu, c'est qu'on va donner des soins aux souffrants parce que sa valeur correspond pas à sa rentabilité, mais parce que c'est un être humain qui mérite qu'on le soulage puis qu'on lui fasse sentir qu'il est précieux. C'est le même mot, la même expression, mais deux visions différentes. Et ce qu'on a besoin, c'est de parler à ce monde de la conception de Dieu dans un vocabulaire qu'ils vont comprendre, sans trahir le sens. Et donner le sens de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Qu'on donne le sens des choses, qu'on fasse pas de compromis sur le sens des choses, qu'on fasse pas de compromis sur la source des choses, qu'on fasse pas de compromis sur la pensée de Dieu, mais en utilisant des mots qui vont les rejoindre puis qui vont comprendre ce que ça veut dire. C'est ça qui est important. Parce que chaque concept a sa source, son sens, sa signification. Chaque concept est associé à des images. Quand j'étais pasteur à l'église du coin, on avait fait un lancement. Les médias sont venus. Il y en a qui sont venus la journée même, il y en a d'autres qui sont venus dans les jours par la suite, les jours suivants. Puis à un moment donné, il y a des journalistes qui me demandent, disent, on va prendre des photos. Voulez-vous aller vous changer? Ouais, c'est pas correct, ça. J'étais habillé à peu près comme ça. Mais non, mais vous avez pas une soutane? Non. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de statue dans votre bâtiment? C'est parce que nous, on parle à Dieu directement, mais Mais pourquoi il y a des instruments de musique? Il y avait un synthétiseur, il y avait une batterie, des guitares. Louez-vous ça, un orchestre la fin de semaine? Non, non, on joue avec ces instruments-là. Mais comment ça, il y a un écran? Ben, parce que je mets des images du texte quand je parle. Dans sa tête, pour lui, quand je prêchais le dimanche, j'avais une soutane puis il y avait des statues dans l'église. Et d'autres journalistes ont réagi de la même façon. Même quelques mois plus tard, je vois un article dans la presse et qui parle qu'il y a un institut biblique au Québec qui veut avoir le statut d'université. Savez-vous quelle image qu'on a mis dessus? Un institut biblique protestant évangélique. Un chapelet. Ça, ça nous dit que quand on parle aux Québécois, ils n'ont pas la perception que nous on a. Quand on dit on va à l'église, il y en a beaucoup, ceux qui n'ont jamais mis le pied dans un bâtiment évangélique, croient qu'il y a des statues, croient que le pasteur parle avec une soutane. Là, c'est des gens scolarisés. Là. J'ai même demandé à Bernard de Rome. Bernard de Rome, c'était celui qui lisait les nouvelles le soir à Radio-Canada, c'était le chef d'antenne, une grande renommée. Et je le rencontre un moment donné dans un événement, puis je lui explique ça. Il me répond, c'est de l'ignorance, tout simplement, de l'ignorance. Mais c'est des gens éduqués. Mais qu'est-ce que ça me dit, moi? Ça me dit, pendant des décennies, j'ai parlé aux Québécois pensant que le sens que je leur communiquais, c'est le sens qu'ils recevaient. Mais ils analysaient dans un autre sens. Et ça, c'est important de savoir parler à notre génération. Mais évidemment, si notre génération est fermée au message, parce que comme je vous dis, zéro compromis avec le message, zéro. Parce que le message, c'est le message. Il n'y a rien à enlever au message. Le message vient de Dieu. Mais il faut s'assurer qu'ils l'entendent comme Dieu veut qu'ils l'entendent, par exemple. Parce que comment ils l'entendaient, c'est qu'ils disaient dans leur tête, ben ils prêchent avec une soutane. Et c'est faux. Alors, il y a des concepts qui doivent être changés. Il faut s'attacher aux bonnes sources. Ça, c'est important. S'attacher aux bonnes sources. Verset 6. Nous, contrairement à eux, ces faux prophètes, nous sommes de Dieu. En parlant des apôtres et des pères de l'Église, celui qui apprend progressivement à connaître d'une manière expérimentale Dieu nous écoute. Ceux qui sont en accord avec l'enseignement des apôtres, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous identifions l'esprit de vérité de l'esprit de l'erreur. En d'autres mots, tout ce que tu vas enlever à la Bible, ça vient des hommes. Tout ce que tu vas rajouter à la Bible, ça vient des hommes. Restons fidèles aux Écritures. Restons fidèles à la vérité. Et ce que ça va faire, c'est que ça va nous amener une vie remplie d'assurance. Parce que si les sources qui nous instruisent sont établies sur la parole de Dieu, viennent de l'Esprit de Dieu, et fondées sur la personne de Jésus-Christ, Dieu fait homme, bien c'est clair qu'on ne peut pas être égaré. C'est la base. C'est le fondement. Et puis c'est pour ça, en conclusion, j'aimerais voir avec vous trois choses. Si vous voulez tourner dans Matthieu 7, à partir du verset 15, on va voir que c'est important de ne pas se laisser tromper par des faux docteurs parce que leur sort final est... Leur sort final est dramatique. Puis nous, on a une responsabilité face à des mauvais courants, à des mauvais systèmes de pensée. Et c'est pour ça qu'on doit voir puis prendre des décisions importantes. Jésus, dans Matthieu 7, va mettre, à partir du verset 15, en garde son auditoire à l'égard des faux prophètes. Il va démontrer qu'ils sont voués à la condamnation. Et il y a une responsabilité extrêmement importante de parler au nom de Dieu. Dieu prend pas ça à la légère. Puis il va nous dire au verset 15 de se méfier puis de pas justement se fier à leur apparence parce qu'on les reconnaît à leurs fruits. Mais il va dire au verset 21, 22, ouais, mais ces gens-là, ces prophètes-là vont dire, hey, on a prophétisé en ton nom, au nom de Jésus en plus. On a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom. Le Seigneur, il va dire, éloignez-vous de moi au verset 23, je vous ai jamais connu. Wow, c'est incroyable. Faire des choses au nom de Jésus, puis que Dieu, puis Jésus nous dit un jour dans l'éternité, hey, ce que tu as fait, c'était pas pour moi, tu l'as fait pour toi. Mais comment on sait? Comment on peut reconnaître si on est dans la vérité, si même si on le fait au nom de Jésus, on peut être repris? La Bible s'explique par la Bible, c'est ça la beauté de la Bible. Dans Nahum 1:7, le Seigneur nous dit qu'il connaît ceux qui se confient en lui. Est-ce que tu es quelqu'un qui se confie en lui? Est-ce que tu prends le temps de vivre avec lui ta vie? Est-ce que tu prends le temps de t'appuyer sur lui? Est-ce que tu prends le temps de te laisser instruire par lui? Est-ce que tu fais confiance que le Seigneur, malgré les épreuves, est avec toi jusqu'à la fin? Parce qu'on va le voir dans les versets qui suivent, parce qu'il va dire, toute personne, au verset 24, qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, il va le comparer à un homme prudent. En d'autres mots, si tu te laisses pas influencer par ces faux prophètes qui prétendent venir de moi, mais qui sont pas de moi, mais que tu t'appuies plutôt sur mes conseils, mes recommandations, tu te confies en moi, l'épreuve va arriver. Puis tu vas être une maison comme bâtie sur le roc. J'étais là en 1996 lors du déluge, avec ma femme et mes enfants. Ça s'est passé devant chez nous. Je voyais les hélicoptères passer avec des blocs de ciment pour empêcher, justement, pour réduire la force de l'eau. J'ai vu des maisons s'écrouler comme des châteaux de cartes. Mais la maison de Noé Tremblay, que vous voyez ici, parce que c'est Noé Tremblay qui l'a bâti, cette maison-là, eh bien, elle a résisté au déluge parce qu'elle était bâtie sur le roc. Toutes les autres qui étaient sur la terre, sur le sable, sont toutes tombées dans l'eau comme si c'était bâti en carton. Puis Jésus dit une vérité, une maison qui est bâtie sur le roc, quand l'épreuve va venir, parce qu'elle va venir, le faux évangile, c'est de dire, hey, si tu marches avec Dieu, il n'y en aura plus d'épreuve. Non, non, le vrai évangile, c'est tu vas en avoir. Psaume 34, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'est pas en train de dire, le malheur atteint jamais le juste. Non, non, le malheur atteint souvent le juste. L'épreuve va venir. Ça, c'est clair. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il y a un témoignage de ce que Dieu est fidèle. Il y a un témoignage de ce que même s'il n'a pas eu les réponses à ses prières, il s'est senti soutenu dans l'épreuve. Ça, c'est clair, ça. Parce qu'on va tout être éprouvé, que ce soit sur le plan relationnel, émotionnel, physique, matériel, financier, on va tous être éprouvés tout au long de notre vie. Mais ce qui fait la beauté, c'est que le passage finit à ce que les gens étaient impressionnés par le message de Jésus parce qu'il parlait avec autorité. En d'autres mots, ils savaient dans leur cœur que c'était vrai, ils savaient que c'était la vérité, c'était point final. Ils parlent avec autorité. Il y a la légitimité de dire ces choses-là. T'sais, avez-vous déjà entendu l'expression « chat échaudé craint l'eau froide » Mais moi, j'ai rencontré des gens plus d'une fois qui m'ont dit « ben non, chat échaudé craint l'eau chaude ». Non, l'expression, c'est craindre l'eau froide. Mais non, un chat qui a été échaudé, il va craindre l'eau chaude. Non, non, un cas qui a été échaudé, tout eau, il va la craindre parce que c'est déjà échaudé. Fait qu'est-ce que tranche la question? Tu rouvres le dictionnaire, puis tu regardes, c'est ça. Ah! C'est l'autorité. Le dictionnaire a dit que c'est ça. On s'appuie. Clique, c'est l'autorité. Tes sources d'inspiration. Elles sont d'autorité divine si elles viennent de Jésus, de sa parole et de son esprit. Et c'est pour ça, si tu es encore là, si tu es encore sur la toile, puis pour toi, Jésus-Christ, un prophète, un philosophe parmi tant d'autres, écoute, tu vas avoir à dealer ça avec lui dans l'éternité. Parce que la Bible nous enseigne qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour en arrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est que tu es libéré. Il ne te reprochera plus tes fautes parce qu'il les a payées. La bonne nouvelle, c'est qu'il a payé pour ta mort. Il a payé pour tes dettes. Il a payé pour ta rébellion contre Dieu. Il a payé. Il a payé pour toi. Il a payé pour moi. Il a payé pour la majorité des gens ici dans la salle. Il a payé pour des millions de gens sur la planète à l'heure actuelle, qui sont réunis aujourd'hui pour célébrer Dieu. Et on n'est pas meilleur que toi, on n'est pas meilleur que les autres, on est aussi pire que toi, et peut-être même dans certains cas pire que toi. Mais ce qui fait qu'on est différent, c'est que Jésus-Christ nous a ouvert les yeux, on a reconnu qu'il était le seul sauveur et notre sauveur. Et on s'est repenti de comment on pensait avant, comment on pensait avant, parce que maintenant, on s'est laissé convaincre par lui pour le suivre et pour nous donner la force de le suivre. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile. Parce que peut-être tu dis, ah ouais, mais vous autres, vous êtes toujours contre ci, contre ça. Écoute, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on est trouvé en faute, on peut se présenter devant notre Rédempteur, devant celui qui rachète nos fautes. C'est libérateur. Ça allège le fardeau, ça libère, ça soulage de savoir qu'on est pardonné. Mais de porter le poids de nos fautes sans savoir qu'on est pardonné, ça, c'est douloureux. Et c'est pour ça que c'est important, si nous, on est sauvés, de garder notre foi bâtie, basée sur Jésus-Christ. Et peut-être certains d'entre vous, vous avez des besoins. Vous avez des besoins individuels. Peut-être le Seigneur dit, bon, ben maintenant, là, c'est un temps où est-ce que je te convoque, je t'appelle à passer un peu plus de temps avec moi d'une manière plus régulière, à chercher ma face, à lire la parole. D'autres, c'est des besoins d'être entourés. Parce que, comme vous le savez, au mois de novembre, on va implanter 4 églises dans ce bâtiment ici. Il va y avoir 4 églises d'implantées pour qu'on puisse recréer le sens d'une petite communauté de 30, 40 personnes. Les groupes connexion, on va en reparler dans les prochaines semaines. Et les groupes connexion, c'est pour apprendre des autres et pour apprendre à donner aux autres. Peut-être un besoin intellectuel d'être enraciné. Vous savez, Paul, il a été 3 fins de semaine à Thessalonique. Il n'a pas pu rester plus qu'un mois à peu près. Mais il a eu le temps de leur enseigner la Trinité, la certitude du salut, le Saint-Esprit, la conversion à Jésus-Christ, la seconde venue de Christ, la résurrection, puis d'autres sujets plus pointus. Peut-être que toi, tu as besoin d'être... Tu reconnais que Jésus-Christ est la source, mais tu as besoin d'être enraciné. Peut-être que tu as un besoin affectif, tu as besoin d'être... de libération, bien, je t'invite à venir voir un des pasteurs ici pour qu'on puisse te mettre en contact avec les bonnes ressources pour aller plus loin. Mais en terminant, et j'invite les musiciens à s'approcher, ce qu'il faut se rappeler de ce message, c'est que le repère ultime est Dieu fait homme, envoyé dans le monde pour nous sauver. Contente-toi pas du simili-poulet. Nourris-toi du vrai. Et aujourd'hui, c'est le moment pour toi, si tu es interpellé, puis tu sais c'est vrai dans ton cœur, à reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur, eh bien, l'invitation t'est lancée. Tu es peut-être dans ton salon, dans ton sous-sol, mais prends le temps, quelques instants, de juste te recueillir devant Dieu pour lui demander de te sauver. On va le faire ensemble. Recueillons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, on est devant toi pour que te remettes nos cœurs. Premièrement, pour qu'il soit enraciné et prêt à témoigner que tu es un Dieu vivant, fidèle, qui pardonne, qui rachète, qui aime. Oh, Jésus-Christ, tu es la source ultime. Et peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui viennent de réaliser qu'il n'y a pas d'autre source que toi. Tu es le seul sauveur. Tu es le seul nom qui a été donné aux hommes pour être sauvé. Et je te demande aujourd'hui de parler à leur cœur, de leur témoigner que tu es la vérité. Si tu nous écoutes présentement puis tu reconnais que tu es fautif devant Dieu, tu as été rebelle devant Dieu, tu as vécu ta vie à ta manière et non pas comme Dieu le voulait, et que tu ne te sens même pas la force de faire la volonté de Dieu, tu es au bon endroit parce que Jésus-Christ rachète les pécheurs. Il rachète tes fautes. Dis-lui, Seigneur, j'ai été rebelle contre toi. Seigneur, je t'ai fui, mais je reconnais que tu es le seul moyen qui peut me sauver. Tu as pris ma place, tu es mort. C'est moi qui aurais dû être là. C'est moi que tu devrais condamner. Je suis condamnable devant toi, mais merci que tu as payé ma dette. Tu m'as libéré et je te dois plus rien parce que j'accepte que Jésus paye à ma place. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Peut-être tu vas dire, c'est trop beau pour être vrai. Deal ça avec Dieu. C'est pas pour rien que ça s'appelle la bonne nouvelle. C'est effectivement très beau, mais d'une valeur inestimable parce que ça l'a coûté la vie de Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Je t'invite, si tu es sur la toile, de nous écrire, de nous appeler pour qu'on puisse en discuter davantage parce que tu viens de faire une demande à Dieu qui va être répondue et qui va avoir une conséquence éternelle et drôlement une bonne conséquence éternelle. Merci Seigneur de continuer à sauver. Merci Seigneur d'utiliser cette Église pour prêcher ce salut, ce message sans compromis. Mais que tu puisses nous donner les mots pour que les gens comprennent ce message, le message authentique de la Bible, de ce que tu es mort pour nous, tu as été enseveli, ressuscité. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne fin de semaine. Bonne semaine, qu'est-ce que c'est?